Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on a le plaisir de démarrer notre série Expat Expert en accueillant Audrey. Audrey est une infirmière clinicienne en périnatalité installée avec sa famille au Canada. Elle est également la fondatrice du premier centre e-santé Happy Mother Baby. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Audrey.
Bonjour Cindy.
Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
Ben merci à toi de m'avoir invitée.
Alors, sache que ça nous fait extrêmement plaisir de te recevoir. Tu étais dans notre target list pendant un long moment avec Amélie, donc on est vraiment super, super contente de te recevoir. Alors, avant qu'on démarre, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît.
Alors, c'est toujours difficile la présentation parce que je crois que je suis ce qu'on appelle un couteau suisse. Donc, je suis Audrey, je suis maman de 3 enfants, mm-hmm. installée au Canada depuis bientôt 6 ans, infirmière diplômée d'État en France et créatrice, fondatrice, directrice, appelez ça comme vous le souhaitez, des centres périnataux Happy Mom and Baby.
Oui. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne, avant qu'on parle de ton centre, un peu sur ton background perso, à savoir, par exemple, comment tu as démarré ta passion pour la relation maman-bébé. Est-ce que ça a été une fois que tu as été maman ou est-ce que c'était avant ça ?
Justement, ça a commencé bien avant. Ça n'a pas commencé quand je suis devenue maman et j'aime le rappeler. Parce que c'est important pour moi de différencier une reconversion professionnelle d'une mission de vie. Et cette mission que je porte, en fait, finalement, bien avant ma maternité, je rappelle souvent, en fait, que cette passion, en fait, je sais pas, passion, en tout cas, cet amour, finalement, mm-hmm. de la maternité, de la femme, de la mère, de l'enfant, c'est plutôt dans cet ordre-là, vraiment. Je ne suis pas arrivée dans ce milieu, on va dire, uniquement parce que j'aime les bébés, bercer les bébés, c'est mignon, c'est gentil, c'est joli. Non, c'est vraiment pour cette transmission qu'on peut faire, en fait, aux enfants, tout ce qu'on peut leur apporter et surtout aussi cette puissance féminine qu'on possède et qui nous permet, malgré ce bouleversement que représente la maternité, de rester la tête droite. Et moi, c'est l'exemple des personnes de ma famille, en fait. L'importance qu'on accorde à cette transmission intergénérationnelle qui finalement m'a déjà mis dans le bain, en fait, depuis toute petite. Oui. J'ai un noyau familial qui est très solide, avec une forte présence féminine et vraiment tournée vers les autres femmes depuis que je suis petite, en fait. J'ai eu l'exemple de mes grands-mères qui avaient toujours quelqu'un à accueillir à la maison, toujours une femme qu'elles accueillaient à la maison. J'en ai vu passer beaucoup et en fait qui leur tendaient la main, alors que c'était peut-être des fois pour les aider dans des situations conjugales compliquées. Des fois, c'était parce qu'elles arrivaient des mêmes pays d'origine de ma famille et qu'elles n'avaient pas encore de situation de papier. Des fois, c'est parce qu'elles étaient maman solo. Enfin, il y avait tout un tas, en fait, de familles, de femmes surtout, qui sont passées devant moi, qu'on a hébergées, qu'on a aidées. Et en fait, j'ai grandi là-dedans. Et je pense finalement que, avec du recul aujourd'hui, avec cette nécessité de comprendre un petit peu moi-même mon parcours, que ça a clairement teinté et influencé mon parcours de vie aujourd'hui. Donc, tu as cette passion, en fait, pour la femme, cette envie, en fait, d'accompagner la femme et d'être dans la continuité de cette transmission familiale. Et à côté de ça, je suis l'aînée de ma famille et j'ai eu donc des petits cousins, des petites cousines, un petit frère. Et j'ai tout de suite, en fait, sans même que je l'analyse, eu la volonté, l'envie de porter, de coller contre moi tous les bébés qui arrivaient dans la famille. Tu vois, c'était un peu comme si j'étais un peu la désignée parce que j'étais l'aînée. Donc, ce rôle me venait à moi, en fait. J'y ai trouvé finalement une source d'apaisement de mon côté, une source de bonheur aussi, des choses que je ressentais qui sont difficiles à expliquer déjà dès toute petite et finalement bah en fait que je ressens encore aujourd'hui quand je suis au contact d'un bébé, d'un enfant, j'ai vraiment cette volonté de donner la main, de guider et de transmettre, de prévenir et de cocooner, de materner, etc., quoi.
Bah, c'est un beau cadeau que ta famille t'a fait.
Oui, exactement.
Et que du coup, tu rends retour aux gens. Donc, à partir de ce moment-là, tu as toujours su que tu ferais au moins un métier qui serait en rapport à tout du moins l'entraide.
Oui.
Enfin, t'as boosté. Comment ça s'est passé? Comment t'as su que tu préférais être infirmière plus qu'une autre profession, type, je sais pas, psychologue ou coach de vie, par exemple?
Alors, c'est vrai que, tu sais, j'ai un certain âge et coach de vie, moi, quand j'avais 17-18 ans, c'était pas des métiers dont on entendait parler. Et si tu veux, j'ai eu la volonté, je me suis cherchée pendant un long moment. J'étais pas en accord avec l'éducation scolaire, la scolarité française. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés déjà à m'écrire, si tu veux, un parcours professionnel à travers les études. Donc, si tu veux, je me suis autorisée, en tout cas, à ne pas aimer l'école en France et donc à prendre le temps de savoir ce que je voulais faire. Et je savais que je voulais être... Enfin, de toute façon, tu sais, c'est comme si tout le monde le sait. Et c'était un métier dans le social. Moi, je suis donc maman d'infirmière. Mes tantes sont infirmières, éducatrices spécialisées. Enfin, tu vois, Oui. Même dans leur métier, elles font ça. Donc, j'avais cet exemple-là. Mais à l'époque, j'avais un frein essentiel au métier d'infirmière qui était « je n'aime pas le sang ». Donc, si tu veux, pour moi, c'était... Ma mère était infirmière, mais je n'avais jamais pensé forcément à être infirmière au départ. Je me voyais plus psychologue. Psychologue oui. dans les familles avec des enfants porteurs de handicap, par exemple, suite à une première expérience professionnelle quand j'avais 17 ans où j'ai travaillé avec des enfants porteurs de handicap, autisme, troubles du comportement, hyperactivité, trisomie, etc. Et donc, j'avais adoré le côté analyse de chaque comportement de l'enfant qu'on pouvait faire le soir en équipe pluridisciplinaire. Donc moi, j'étais juste animatrice, mais je me nourrissais en fait de leur compte rendu. Et j'avais adoré faire ça. Donc je m'étais dit, bah tiens, j'ai envie de faire psychologue avec les enfants porteurs d'un handicap. Mais surtout, j'avais une expérience qui m'avait troublée, c'était que à la fin du camp, les parents n'étaient pas présents pour venir chercher leurs enfants. C'était des taxis, c'était des ambulances. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qui fait en fait que quand on est un parent avec un enfant qui a porte un handicap, en tout cas, eh bien, qu'est-ce qui vient un petit peu fragiliser ce lien d'attachement? Et donc, du coup, je m'étais dit, ben, moi, j'ai envie d'aider ces familles à aimer leurs enfants, à les accompagner, à les guider de la même manière qu'un autre enfant, parce que finalement, veut dire un handicap, c'est un nom qu'on met sur quelqu'un vis-à-vis d'une société qui est normée. Donc, est-ce que c'est eux qui portent un handicap ou est-ce que c'est nous qui ne sommes pas adaptés? Tu vois, j'avais ces questionnements. Et donc, ma première volonté, c'était celle-là. Mais en même temps, passionnée de voyage et de découverte du monde, il fallait que je trouve un métier qui aussi me permette de voyager facilement et de partir vivre à l'étranger facilement. Et psychologue, c'était plus difficile. Éducatrice spécialisée, c'était plus difficile. Donc, de fil en aiguille, je suis partie travailler dans d'autres domaines pour me nourrir, enfin, je veux dire, pour avoir un salaire. Et finalement, à la naissance de mon premier enfant, où finalement j'ai eu un contact hospitalier comme beaucoup de femmes, un accompagnement assez minime de cette maternité, et bien c'est là où je me suis dit, mais non, en fait, on peut pas laisser les femmes accoucher comme ça, on peut pas laisser une femme raconter ses vacances pendant que une femme donne son premier bain à son bébé. Et ça a été un peu le truc où je me suis dit, bon, bah c'est ça que je vais faire. Je vais être dans le milieu hospitalier et je veux offrir aux mères, en fait, qui deviennent mères, déjà, voilà, la présence qu'elles méritent et l'accompagnement qu'elles méritent. Et j'avais 23 ans.
Ok, ah oui, donc une révélation, ouais.
Moi, voilà, je si tu veux, ça mêlait tous mes critères, les bébés, les mamans, l'entraide, ça me permettait d'avoir un passeport professionnel parce que c'est un métier qui est reconnu de façon internationale, et puis des possibilités d'évolution, enfin voilà, disons que c'est venu finalement comme une évidence à ce moment-là, et donc j'ai tout mis en pause et j'ai passé mon concours à ce moment-là.
Ok, chapeau à tout reprendre de zéro, hein, quand même, entre guillemets.
Oui, de zéro. Je voulais pas de longues études, j'avais pas du tout envie de les faire à 18 ans. Moi, mon but, c'était de partir à l'étranger et de travailler dans un métier, enfin, faire quelque chose que j'aime.
Oui.
Voilà, mon but, c'était ça. Donc, j'ai travaillé parce que j'étais plus chez mes parents, moi. Je vivais plus chez mes parents. Donc, j'ai travaillé, j'ai été dans le commerce, tu vois, j'ai fait tout ce qui est petit boulot. Alors, je pense parce que j'ai peut-être des facilités de communication, d'habileté sociale, on va dire. J'ai très vite évolué dans le domaine de la téléphonie mobile. J'étais une très bonne vendeuse. Donc, tu vois, à 21 ans, mon chef, enfin le chef de l'entreprise dans laquelle je travaillais, m'avait dit, écoute, tu vends super bien, etc. Là, on ouvre une nouvelle boutique. Dans l'endroit où, enfin dans la région où j'étais, est-ce que ça tente de l'ouvrir, d'être responsable de cette boutique? J'avais 21 ans. Oui. Et je me suis dit, bah, écoute, allez, vas-y, ouais, on y va. Et je me suis retrouvée à 21 ans, si tu veux, à recruter du monde. Enfin, voilà, c'était toutes ces expériences, finalement, ont du sens aujourd'hui parce qu'elles ont toutes nourri, elles ont toutes apporté quelque chose à ma vie aujourd'hui, en fait. Mmh. Donc, j'ai su, si tu veux, à un moment donné, me mettre en pause pour gagner des sous. Mais à côté de ça, je faisais beaucoup de missions bénévoles dans les foyers d'accueil de jeunes mères, dans les foyers de personnes en situation de précarité. Tu vois, je gardais toujours ce lien, en fait, d'entraide et de social et de santé, et toujours dans un milieu de l'enfance et de la famille. Mais à côté de ça, je devais quand même manger. Donc, j'ai dit, voilà, ça viendra quand ça viendra. Quand je saurai où j'ai envie d'aller, j'irai.
Ok. Mais alors, comment t'es arrivée à gérer un petit bambin et, et la reprise des études, entre guillemets, quoi?
Oui, c'est ça. Eh bien...
chargé.
Je sais. Ouais, c'est ça. Je m'organisais. J'ai beaucoup... j'ai répondu aux besoins de mon enfant, beaucoup de portages, beaucoup de choses qui me permettaient de trouver un équilibre, en fait, entre materner, si tu veux, mon enfant, et en même temps pouvoir avancer moi de mon côté. J'ai eu l'aide de ma famille. Mes parents étaient extrêmement présents.
C'est chouette, oui.
Voilà, j'étais, si tu veux, à cette époque, j'étais toute seule avec mon enfant. Donc, du coup, j'avais vraiment l'aide de ma famille. Je pense que vraiment, ils ont été un des piliers. Quand j'ai repris mes études, donc j'ai réussi mes concours infirmiers, mais financièrement, je voyais que ça allait être une galère pas possible, parce que du coup, j'avais tout quitté et que j'allais gagner à peine 800 euros par mois. Donc, je venais d'acheter un appartement sur Lyon. Donc, je me suis dit, bon, écoute, tant pis, laisse de côté encore plus longtemps ce projet, retourne travailler dans la téléphonie parce que je gagnais bien ma vie. Mm-hmm. Laisse de côté. Et j'ai dit à mes parents, j'ai dit à ma mère, écoute, laisse tomber. Je peux pas financièrement assumer, je pourrais pas. Elle m'a dit, écoute, mes deux parents m'ont dit, écoute, t'as pas quitté la maison à 17-18 ans pour faire des études, on n'a pas eu l'occasion, si tu veux, de financer des études que t'aurais pu faire dans un circuit normal, t'es indépendante depuis que t'as 17 ans, tu nous as jamais rien demandé, je veux dire, on peut faire ça, voilà, on peut être là pour toi, on peut être là à t'aider, donc en fait, ils m'ont aidé financièrement, ils m'ont aidé pour garder mon fils, enfin voilà, ils m'ont aidé vraiment dans tout ça, et en fait, j'ai, si tu veux, mis une partie de mon appartement en location à l'époque pour m'aider à financer, en fait, j'avais loué une chambre dans mon appartement pour, m'aider à payer mon crédit immobilier, et c'est vrai que si tu veux, dans ce moment de vie a été vraiment très court comparé à tout le reste, parce que très rapidement, j'ai rencontré mon mari et qui a été un véritable soutien aussi par la suite.
Bah oui, alors tu vas nous raconter. Voilà. Comment ça s'est passé la rencontre avec ton mari?
C'était pile à cette période, en fait, pile à cette période un petit peu, si tu veux, de renaissance. Donc, j'aime bien appeler ça comme ça, de renaissance. Et donc, voilà, par le biais d'amis en commun, on s'est rencontrés. Et je pense qu'on est certainement on est deux personnes qui aimons nous fier, en fait, à ce qu'on ressent. On n'a pas peur, d'accord? C'est-à-dire que autant lui que moi, on n'a jamais eu peur que ça fasse à peine 2-3 mois qu'on soit, qu'on ait commencé quelque chose ensemble pour finalement s'installer ensemble, y croire, en fait. On n'a pas eu peur d'y croire, ni lui, ni moi, dès le départ. Et on était pour le temps, voilà, tous les deux dans, comme je t'ai dit, une renaissance, en fait. Vraiment, lui dans un renouveau de vie, moi dans un renouveau de vie, avec des aspirations communes.
Oui, et c'est surtout aussi un bon timing si vous arrivez tous les deux dans la même phase de votre vie.
C'est
super important. Et les gens ne croient pas au destin, je veux dire, les gars. Non, le destin est là, quoi.
Oui, oui, complètement. On était vraiment en phase, enfin, je veux dire, on était vraiment dans les mêmes questionnement sur l'avenir, on avait tous les deux des envies d'ailleurs. Moi, depuis longtemps, j'avais cette envie d'ailleurs, mais je me laissais le temps du bon moment. Et lui, pareil. Donc, tu vois, vraiment, enfin voilà, tout s'est déroulé, tout a été à sa place, comme encore aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, comme je te dis, moi je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes ou même de gens de notre génération qui se posent énormément de questions. Mais ça remplit pas tous les critères. Ah non, mais et si jamais ça va, tu vois? Je pense qu'on a vraiment cette chose commune, autant lui que moi, on n'a pas peur en fait. On y croit et puis on y va en fait. On se lance, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ce bon timing plus deux compatibilités qui sont pour moi presque essentielles
Tirer vers le haut, c'est l'essentiel, voilà. Je pense, dans un couple.
Complètement,
déjà.
Complètement, c'est ça.
Donc, la vie suit son cours. Qu'est-ce qui vous pousse en fait à vous expatrier au Canada tous les trois?
Alors, tous les quatre, parce que du coup, entre-temps, on a eu un second bébé, donc un deuxième garçon. Je pourrais pas parler au nom de mon mari pour son envie d'expatriation, etc. Mais il faut savoir que ni lui ni moi, on tire nos racines de la France.
Oui, c'est quoi son background culturel à lui?
Alors, mon mari est né au Gabon, a grandi au Gabon et est venu en France à l'âge de 20 ans pour faire ses études, donc d'un papa gabonais et d'une maman martiniquaise.
Ok, un beau mélange.
Ouais. Ouais. Okay. Donc, si tu veux, quand on s'est rencontrés, lui ne se sentait pas bien en France pour plein de raisons, pour ses raisons à lui. Et finalement, moi non plus, je me sentais pas bien. Donc, on s'était dit, lui voulait finalement rentrer, voulait mettre fin à cette vie, en fait, qu'il vivait en France et rentrer chez lui. Et puis, moi, je voulais partir aussi. Donc, en fait, on s'est mis d'accord. On s'est dit, écoute, on va regarder où est-ce qu'on pourrait partir ensemble. Enfin, tu vois, on a cherché un peu un pays qui nous corresponde à tous les deux. Je suis née aussi dans une famille multiculturelle, avec un côté italien, un côté algérien, avec, si tu veux, les fesses un peu entre deux chaises toute ma vie.
Ouais.
Tu vois, je veux dire,
on en parle souvent des fesses entre les deux chaises. Dans ce...
Exactement. Donc, tu vois, même trois chaises, je te dirais, parce que Italie, France, Algérie, finalement, en fait, moi, je suis qui là-dedans. La France me donnait pas vraiment une place parce que j'étais quand même issue de l'immigration. Enfin, tu vois, tu sais, ça a été hyper difficile. Ouais. Voilà, cette construction identitaire a été difficile et j'ai vu ailleurs que c'était pas aussi difficile. Donc, je m'étais dit, moi, si j'ai des enfants, je veux pas vivre ici parce que je veux pas qu'ils vivent les mêmes choses que moi. Je veux qu'ils soient eux et puis qu'ils soient fiers d'où ils viennent et puis qu'on n'en vienne pas à cacher d'où on vient parce qu'on a peur de subir la discrimination. Enfin, tu vois, tout ce qu'on peut connaître de la France n'était pas quelque chose qui, moi, me permettait de m'y sentir bien. Cette fameuse... Et attention, parce que ce n'est pas une critique. Je respecte chaque culture et chaque façon d'être, mais je m'autorise à penser que certaines cultures ne sont pas en adéquation avec qui, moi, j'ai envie d'être. Et c'était pas le cas. Donc, c'est-à-dire que autant, je trouve... J'aime tout le monde, j'aime le monde entier, j'aime tous les pays du monde, mais toutes les cultures ne me correspondent pas, toutes les façons de vivre ne me correspondent pas, et j'ai envie de te dire que je ne me sentais pas... je me sentais pas bien, j'avais envie d'ailleurs. Donc, si tu veux, j'avais en plus ce besoin de vision d'avenir, en fait, que je n'avais pas en France. J'avais ce besoin de visualiser une carrière professionnelle en devenant infirmière. Ça s'est accentué parce que, à part être cadre ou je ne sais pas quoi, dès que je cherchais des formations pour aller plus loin, je n'en trouvais pas. Mais tu vois, je trouvais que c'était très limitant. Et j'avais adoré le fonctionnement d'Amérique latine qui est aussi celui de l'Amérique du Nord, où tu sais, tu peux reprendre tes études jusqu'à 60 ans. Le matin, le soir, le midi, enfin tu vois. Moi, ma tante, elle est au Brésil, elle a 50 ans, elle a passé sa thèse littéraire, enfin tu vois.
Et même, je trouve qu'ils sont plus axés sur l'expérience professionnelle et humaine plus que sur tes diplômes. En France, on va te dire, t'auras beau avoir 40 ans de carrière, on ira regarder quand même quel baccalauréat tu as eu. Tu vois,
exactement.
C'est un peu.
Et moi,
C'est le contraire de progressiste, je trouve. Mais c'est une opinion qui m'est propre. Mais
je veux dire, je la partage. Et en même temps, il y avait ce côté. Moi, je travaille depuis que j'ai 14 ans. Mon oncle avait des boulangeries-pâtisseries. J'ai travaillé chez lui très, très tôt. Si tu veux, je sais que je suis quelqu'un qui est capable de travailler énormément. Par contre, je me refuse à travailler énormément et de ne pas avoir le fruit de mon travail. Donc, si tu veux, c'est j'ai jamais senti que j'étais récompensée pour tout le travail que je pouvais faire quand j'étais en France. Et moi, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de, oui, peut-être travailler jour et nuit, mais d'en récolter les conséquences, tu comprends?
Ouais.
Et c'est pas quelque chose qui pour moi était OK avec moi en France, qui pouvait m'offrir en tout cas la culture française. À côté de ça, comme je te dis, le côté exclusion, on va dire non-inclusion, ne faisant pas partie de la majorité visible, eh bien, je n'avais pas envie d'apprendre à mes enfants de travailler deux fois plus que tout le monde,
oui.
voire quatre fois plus, parce oui. que ils sont noirs, parce qu'ils sont maghrébins, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça, parce que t'as beau faire tout ce que tu veux, les appeler tous les prénoms que tu veux, enfin effacer le maximum si tu veux de leurs origines, de leurs racines. Ton faciès, c'est ton faciès, quoi.
C'est malheureux.
Voilà.
C'est malheureux. C'est comme ça. Et on en a parlé dans un podcast récemment avec une famille musulmane où, à partir du moment où tu es jugée sur un objet que tu portes, c'est qu'il y a un problème.
Exactement.
Que ce soit un voile ou quoi que ce soit. Donc,
Surtout quand tu ne l'es pas. Moi, je ne suis pas comme ça, tu comprends? Donc, ouais. J'ai cette volonté d'inclusion. Je suis issue de la multiculturalité. Je ne peux pas, moi, être non inclusive.
Bien
Donc,
sûr,
je ne peux pas vivre dans un pays qui est majoritairement non inclusif. Et j'ai envie de dire majoritairement parce que je ne mets pas tout le monde dans le même sac.
Bien sûr.
Mais ça a participé à mon envie d'ailleurs. Et encore une fois, sans aucun jugement négatif, chaque pays a sa culture. Si ça correspond à certaines personnes, eh ben, tant mieux. Mais si ça ne correspond pas à d'autres personnes, eh ben, on peut partir.
Oui. Et donc, le Canada est tombé sous le sens.
Et tomber sous le sens parce que c'est l'Amérique du Nord, c'est une culture que j'aime bien, la méritocratie existe, c'est un pays capitaliste qui favorise le travail, qui favorise l'entrepreneuriat, qui va la culture du positif. Voilà, c'est pas tout beau, tout rose, mais c'était une culture qui nous attirait mutuellement. Professionnellement parlant, c'était je veux dire, on sait quand on est dans le milieu paramédical ou médical, qu'en termes de recherche, d'évolution de carrière, d'échelon salarial, de rémunération, que c'est mieux que si on est infirmière en France. Donc, si tu veux, c'était aussi pour des aspirations professionnelles cette vision d'avenir finalement en tant que professionnelle que je n'avais pas en France, que je retrouvais au Canada.
Et donc, pour toi, c'était simple de transférer ton diplôme d'infirmière en France au Canada ?
Alors, 2012, la France et le Canada ont passé un accord de reconnaissance mutuelle du diplôme d'État infirmier, ce qui fait que autant une Canadienne peut aller travailler en France qu'une Française peut travailler au Canada.
C'est chouette.
Voilà. Donc, du coup, on vient ici, le diplôme donc était reconnu. Donc ça, j'ai dû attendre que ça arrive pour ne pas perdre de temps, parce qu'avec deux enfants, tu ne pars pas de la même manière que seule avec un sac à dos.
C'est clair.
Voilà. Donc tu réfléchis, tu vois, tu regardes. Voilà, je suis quelqu'un de très posé aussi là-dessus, donc j'avais besoin de pouvoir, si tu veux, venir facilement. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le Canada et notamment la province francophone comme un petit peu un tremplin pour autre chose éventuellement. Mais c'était plus rapide. Plus simple, il y avait besoin de moins d'argent parce que du coup, tu n'as pas besoin de t'imprégner, si tu veux, de la langue pour commencer à travailler. Donc, tu t'économises un peu 6 mois. Les États-Unis, il fallait passer le TOEIC. Enfin, tu vois, ça me paraissait plus laborieux. Donc, on a fait un choix un petit peu de facilité tout en étant, si tu veux, dans l'équilibre de cette culture américaine. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le Canada et le côté francophone. C'est vraiment financier et question de rapidité. Donc, du coup, voilà comment on est arrivé ici.
Mais c'est vrai que les gens oublient beaucoup que le Canada, notamment le Québec, les Français pensent qu'ils vont aller là-bas en disant « c'est comme la France », alors que pas du tout. C'est quand même une culture North American, donc très quand même axée sur le système américain où t'as intérêt à bosser. Et t'as pas autant de bénéfices qu'en France en termes de vacances. Et voilà, c'est une autre mentalité, surtout.
C'est une culture américaine, en fait. Et d'ailleurs, moi, j'aime dire aussi qu'on y parle une autre langue. On a une langue qui est similaire à la nôtre, mais c'est une autre langue.
Mais je suis un peu déçue que t'aies pas pris l'accent québécois, hein. Franchement.
Moi, je ne le suis pas. Moi, je ne suis pas déçue. Pas que je ne l'aime pas, mais mes enfants peuvent... Et tu sais que mes enfants l'ont avec leurs amis. Hein.
C'est vrai?
Ah oui.
Mais sinon, quand ils te parlent, toi, ils n'ont aucun accent québécois?
Non.
C'est marrant.
C'est pour ça que je dis qu'ils parlent deux langues. Après, c'est aussi peut-être parce que on entretient aussi ce côté multilingue, en fait, si tu veux, qui fait qu'ils différencient peut-être, je sais pas, mais moi, j'ai pas, mes enfants n'ont pas l'accent québécois quand ils sont à la maison, du tout. Par contre, je rigole parce que des fois, ils ont des amis dans le jardin et j'entends mon fils parler, notamment le plus grand, et qui parle, tu sais, avec bien l'accent, quoi. J'ai dit, tiens, Camille, t'as vu que tu parles avec l'accent? Il dit, non, non, pas du tout. J'ai dit, bah, si. Ouais, tu vois, donc vraiment. D'où l'importance, voilà, pour moi c'est vraiment une autre langue, c'est et d'ailleurs qu'on a appris, hein, qu'on a, il y a des expressions qu'on apprend, tu vois, des façons de s'exprimer, des tournures de phrases, tu vois, moi des fois je fais souvent au Starbucks et quand j'ai des amis, des collègues même qui travaillent au centre, qui sont au téléphone avec moi ou n'importe qui vit en France, tu sais, ils comprennent rien en fait. Je comprends rien du tout, donc ça me fait rire.
Et donc attends, alors comment c'est la vie sur place quand on est une famille mixte recomposée comme la tienne par rapport à en France? Est-ce que y a aucun regret et tu trouves que cette culture est beaucoup plus inclusive qu'en France?
Alors, je ne veux pas donner de faux espoirs aux gens, elle n'est pas parfaite. De toute façon, je ne sais pas si la société parfaite existe. Et oui, je crois que j'ai compris aujourd'hui, on est déracinés, d'accord? Encore, je veux dire, en plus, c'est vrai que je dis, je parle pas au nom de mon mari parce qu'on a deux histoires différentes. Lui a grandi dans un pays sur le continent africain, donc au Gabon. Il a vécu l'immigration de son propre chef, en fait, finalement, venant faire ses études en Europe. Donc, avait déjà, si tu veux, mais c'est un, je veux dire, c'est une histoire différente de la mienne. Ouais. Où moi, finalement, je veux dire, je suis née en France parce que ma famille, si tu veux, a quitté l'Algérie. Pas forcément de son propre chef, tu vois, c'est pas la même histoire. Oui. Donc, du coup, on a un attachement, on a une construction qui est complètement différente. Et en même temps, la chose commune qu'on peut verbaliser ensemble, parce que c'est, on en discute énormément, c'est que, quoi qu'il en soit, lui, chez lui, je veux dire, chez lui, c'est le Gabon, d'accord? C'est-à-dire, quand il rentre au Gabon, c'est chez lui, il a ses repères, il a tout ce avec quoi il a grandi. Oui. Moi, je veux dire, mes repères, ce qui va me sécuriser un petit peu affectivement parlant, psychiquement parlant, ça va être la France, parce que j'y ai grandi là-bas, donc j'ai mes repères, mais à côté de ça, je ne me sens pas non plus chez moi à 100%. Donc, j'ai pris le parti de me dire que finalement, je n'ai pas de chez moi. Je n'ai pas de chez moi. Donc, en fait, je ferai de chez moi et mon mari aussi fera de chez lui l'endroit dans lequel il se sent bien. Mais on est victime, si tu veux. Moi, je parle vraiment, je pèse pas mes mots. Je me considère comme étant victime, si tu veux, d'une histoire et un dommage collatéral auquel on n'a pas pensé, en fait. Et ça a été très difficile. J'ai eu vraiment un cheminement psychique, en fait, pas simple, parce que en venant ici, j'ai eu l'impression de revivre finalement ce que mes grands-mères, parce que du coup, mes deux grands-mères ont quitté l'Algérie, j'ai eu l'impression de revivre ce qu'elles ont vécu avec de façon moins difficile qu'elles, si tu veux. Donc, le Canada, oui, c'est vrai, en tout cas, le Québec, parce que je peux pas parler au nom du Canada en entier, oui, c'est grand et nous on est dans une région à part. C'est pas le paradis sur terre en termes d'inclusion, d'accord? Mais ce qui est appréciable, c'est que il y a cette volonté. Il y a cette volonté d'inclusion. Il y a cette volonté d'accueil, si tu veux, de l'étranger. Il y a cette volonté de tolérance. Il y a cette la volonté est là en fait. La remise en question est là. Et il y a beaucoup beaucoup d'incompréhension, de naïveté sur les personnes qui viennent d'ailleurs, mais une fois que les explications sont données, que la barrière un petit peu, que la glace est brisée, eh bien, on arrive à quelque chose, d'accord ? C'est pas buté, c'est pas fermé comme on peut le ressentir, comme on pouvait le ressentir en France, où finalement, on n'avait pas cette notion de dire, bon, ça peut changer, tu vois, ça peut être mieux. Non, j'avais plus, on n'avait plus cet espoir-là. Et on a fait le choix de partir pour ne plus se battre. Ici, il y a vraiment cette volonté, elle se ressent, elle se perçoit, et c'est agréable. C'est agréable parce que finalement, ton histoire devient une force. Le fait que tu sois dans l'immigration, ça devient une force en fait. On te demande d'où tu viens et finalement, on va dire waouh, bravo parce que dis donc, pour avoir le courage de partir, venir, tu vois, on va respecter finalement ce côté-là. Alors oui, il y a une infime partie de personnes qui sont intolérantes, discriminantes,
Il y a des
racistes,
ignorants partout. Hein.
Voilà, ouais, ça, il y a des ignorants partout, on ne peut pas. Ouais. Mais ils ne sont pas plus nombreux. Donc, on arrive à s'en sortir et à mieux se sentir surtout.
Mais c'est encourageant surtout pour les enfants quand même.
Voilà, exactement. Tu sais, j'ai par exemple le nom de famille. Enfin, moi, je veux dire, j'ai vécu beaucoup de moqueries en France. Aucun de mes enfants ne vit ça. Donc, même si ce n'est pas une société 100% parfaite sur la mixité, l'inclusion de l'étranger, patati patata, il y a quand même énormément de différences qui pèsent dans la balance positive de la chose.
Oui, mais je te dis, et je le répète tout le temps, mais j'ai l'impression qu'en France, malheureusement, le racisme est normalisé. Et c'est triste. Parce que...
Il est institutionnel, il est ancré. C'est-à-dire qu'il est normalisé parce qu'il est là depuis des générations et des générations et qu'il est institutionnel, tu comprends ? Il est pas, il est, franchement, c'est pas pour excuser, mais des fois, on a l'impression qu'il n'est même pas volontaire. Il est dans les mœurs, en fait.
Ouais.
C'est comme ça. Parce que l'histoire de la France s'est créée comme ça. Je veux dire, juste le fait de coloniser des pays,
ouais,
ça
c'est
te
le rapport
positionne.
De force.
Voilà. Ouais. Rapport de force. Et on retrouve toujours ce rapport de supériorité, de hiérarchisation. Donc, en fait, il est institutionnel. Vraiment, pour moi, il est ancré dans la culture. Donc, en fait, les gens ne s'en rendent même plus compte, ne savent même pas. Et je le sais parce que et je dis ça parce qu'aujourd'hui, je me suis éloignée de personnes que j'ai fréquentées toute ma vie parce que je me suis rendu compte de ça, en fait. Parce que je me suis rendu compte que moi, aujourd'hui, je n'ai plus envie d'entendre certaines choses, mais eux ne sont pas prêts et ne comprennent pas que moi, j'ai plus envie, en fait. Tu comprends? Et ils ne comprennent pas, ne sont même pas dans la remise en question, mais ils sont dans le rapport de force. Non, je ne suis pas ce que tu dis, mais je n'ai pas dit que tu étais quelque chose. J'ai juste dit que moi, j'autorise mes oreilles à ne plus entendre ces choses-là.
C'est
mais
important.
J'ai pas dit, tu vois, je protège mon mental, je n'ai pas envie d'entendre des choses sortir de ta bouche qui ne me plaisent pas, qui ne me correspondent pas, et je ne veux pas échanger avec toi parce que je parlerai avec des personnes qui ont fait une démarche de regard différent. Celles qui ne l'ont pas faite, je refuse de, comme on dit en bon québécois, de m'ostiner avec eux. Je protège ma santé mentale et je passe à autre chose et je les sors de ma vie, en fait, tout simplement. Parce que, comme je te dis, il est institutionnel. Donc, du moment où c'est dans l'institution, comment tu fais ?
Encore une fois, Mohamed, dans un épisode, expliquait l'important pour nous aujourd'hui, c'est d'être un tremplin pour les gens et pour leur faire comprendre, en fait, que ce qu'ils disent au quotidien, c'est pas normal.
Tout à fait.
Et dans d'autres cultures, ce serait pointé du doigt comme étant du racisme.
Mais bien sûr.
Et c'est ça, c'est que tant que tu n'éduques pas les gens, ils ne peuvent pas savoir.
Exactement. Mais il n'y a pas ce côté éducatif. Dès l'école, il n'y est pas. Dès l'école,
non,
on va te dire que les Noirs marchent pieds nus.
Ouais.
Tu vois un peu ce truc dès l'école. Donc, voilà, moi, je vais protéger mon mental. On est parti. Je n'ai pas envie de refaire, si tu veux, le monde. Par contre, je ne me prive pas de parler. Donc, j'ai une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et en même temps, je n'accepte pas les choses que d'autres ont pu accepter. J'ai eu l'expérience récemment, si tu veux, de non-famille de mon mari qui est donc africain, qui est gabonais exactement, parce que africain, ça ne veut rien dire, qui est gabonais, qui a été, si tu veux, qui a entraîné un rictus sur le plateau d'une émission très regardée en France pour les familles. Il a entraîné un rictus lors de l'énonciation de celui-ci quand on présentait un des livres que j'ai écrit. La production de cette émission a estimé qu'il n'avait rien fait, en fait. Que déjà, je devais m'estimer heureuse qu'ils aient parlé de mon livre.
Ah bon ?
Et moi, je refuse. Je refuse. Tu comprends ? Je refuse de me cantonner, si tu veux, à une réponse comme celle-ci. Non. Je mérite mon nom, le nom de mon mari. C'est notre identité. C'est notre histoire. Et quelque chose comme ça se passe sur la télé canadienne. De toute façon, ça ne se passerait même pas. Mais si ça se passait, tu verrais ça aux nouvelles comme pas possible.
Ouais.
Tu verrais ça au journal. Parce que c'est impensable, en fait, de rigoler du nom de famille de quelqu'un, d'autant plus sur un plateau de télévision.
Non, et puis c'est surtout que si ça avait été une personne, je ne sais pas, scandinave ou allemande, ils auraient fait l'effort, tu vois, de prononcer le nom correctement, mais sous prétexte que ça a une connotation, entre guillemets, d'un continent. Ils ne font pas l'effort d'eux et ils se moquent d'eux, et c'est là où il y a un problème.
Tout à fait, tout à fait. Parce que Schwarzenegger, tout le monde sait le dire.
Bien sûr, exactement.
Voilà.
Et c'est dingue, hein. C'est ridicule. Enfin bref.
Et le pire, c'est que on va minimiser ton ressenti, on ne va pas l'écouter, on va le minimiser, on va lui manquer de respect. Et moi, c'est quelque chose que je n'accepte plus.
Oui, on
que
va
vraiment,
déshumaniser la personne
complètement,
par son nom.
Complètement.
Et c'est un gros problème. Non.
Voilà. Donc je continue le combat à distance,
ouais.
Mais parce que je suis très présente dans les médias français. Je refuse et je le dis ouvertement, publiquement, je refuse. Je l'ai dit sur mes réseaux, j'ai expliqué que voilà comment on prononçait mon prénom et voilà. Et ça, une réaction de notre part, ils ne sont pas habitués. Donc ça va changer, on a ce devoir effectivement d'éducation, mais ça passe par beaucoup de travail. Du coup, je m'épargne en vivant au Canada un petit peu quand même.
Non, mais tu as bien raison. Et encore une fois, en France, on ne parle pas de la santé mentale des gens. Et je pense qu'il y a aussi un gros effort à faire là-dessus.
Tout à fait.
Mais bon, c'est un autre débat, malheureusement. Et je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui parce qu'encore une fois, ce podcast se veut inclusif. Donc, ouais, j'espère vraiment que ça va permettre de faire évoluer les mentalités et la nouvelle génération à venir. Donc,
tout à fait. Enfin. On trace le chemin.
Oui, oui, non, mais on fait bien. On fait très bien, parce que c'est important. Et alors, j'aimerais bien qu'on parle de ton corps de métier, et notamment du centre périnatal Happy Mom et Baby que tu as créé. Et voilà, donc par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé à venir créer ce centre et à te mettre toi à ton compte? Est-ce que ça a été un projet qui a mûri déjà dans ta tête en France, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as installé à ton arrivée au Canada?
C'est un projet qui a commencé en Europe, en France, il y a une dizaine d'années, avec notamment l'arrivée des réseaux sociaux. De plus en plus de familles se tournent vers les réseaux sociaux. Donc, à l'époque, c'était essentiellement Facebook et les blogs et les forums pour aller trouver de l'information. Sauf que l'information qui était donnée et qui est donnée encore beaucoup aujourd'hui ne sort pas, en fait, de professionnels de santé. Et je trouvais ça assez particulier de donner des informations qui concernent la santé de la femme, la santé maternelle, la santé de la maternité, de l'enfant, par des personnes finalement qui n'ont fait aucune étude dans ce domaine, n'ont aucune connaissance précise des choses. Et donc, ça a motivé un petit peu mon envie de dire, OK, bon, ben, les mamans maintenant vont chercher un petit peu des réponses à leurs questions qu'on ne peut pas, auxquelles on ne répond pas finalement en tant que professionnel de santé, sur Internet. Maintenant, sur Internet, il n'y a pas de professionnel. Alors, pourquoi est-ce que moi, je n'irai pas sur Internet en étant une professionnelle? Donc, au départ, c'était vraiment cette démarche-là. J'étais beaucoup présente dans des groupes de mamans, des pages de mamans, des forums. Enfin, tu vois, j'allais vraiment essayer d'aller guider ces familles qui cherchaient des réponses à leurs questions. Alors, surtout, hein, le sommeil, la grossesse, tout ce qui concerne la maternité, la paternité, et la parentalité. Donc, j'ai vraiment initié, si tu veux, cette présence digitale il y a une dizaine d'années. Okay. Puis, c'est pas que ça a commencé à prendre, c'est surtout qu'on a commencé à venir me demander de plus en plus de conseils en privé. En privé, des conseils, sauf que je suis très limitée, parce que étant professionnelle, il n'est pas possible, sans connaître une situation précise, faire une anamnèse, un recueil de données bien précis, de pouvoir diriger une personne. Et donc, je prenais beaucoup de temps bénévolement pour appeler les parents, aller plus loin en fait que le réseau social, avec des personnes que je connaissais absolument pas, que j'appelais, je posais plus de questions. Enfin, tu vois, je faisais quelque chose.
Un réel suivi, oui.
Un réel suivi. Et tout ça bénévolement. À un moment, je me suis posé la question, mais OK, j'aime faire ça, j'aime vraiment faire ça, j'aime apporter ça aux familles en dehors finalement de ma présence à l'hôpital. Et puis, sauf que, mais comment est-ce que je peux gagner ma vie en faisant ça? Tu vois, je me disais, bon, comment est-ce que je peux faire? Parce que bon, bah, tu sais, c'est quand même du temps, ça pourrait devenir une activité principale, puis je pourrais finalement être rémunérée pour ça. Mais j'avais vraiment aucune idée de comment réussir à créer quelque chose et continuer de faire ça. Tu vois, j'étais vraiment dans le flou, ça me paraissait impossible. Donc, j'ai continué pour moi, parce qu'en France, t'es infirmière à l'hôpital et en libéral, et puis c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, en structure, et puis t'es toute seule, t'es en libéral. Sauf que c'est pas vraiment du libéral, sauf que tu vas s'entraîner un très, très long questionnement chez moi. Et puis, arrivé au Canada, donc avec le permis, moi, j'étais obligée de travailler dans un hôpital jusqu'à l'année dernière. Donc, j'ai travaillé dans un hôpital avec, voilà, ça, ce serait pareil, un autre sujet, mais ça n'a pas été très, très simple, l'intégration et l'adaptation dans les structures ici. Mmh. Et donc, si tu veux, à un moment, c'est le processus d'immigration, c'est pas facile, tu passes par plusieurs étapes. Donc, j'ai repris un petit peu cette présence, j'ai mis en pause un an, on va dire, déménager, arriver, m'adapter. Et puis, je tombe enceinte de mon troisième bébé en début 2017, janvier 2017, donc ça faisait un an qu'on était là. Et souvent, j'ai un petit peu plus de temps. Je vais reprendre un petit peu ça parce que j'aimais beaucoup. Et en fait, si tu veux, l'arrivée au Canada à booster ma confiance en tant que professionnelle parce que j'ai trouvé, en tant qu'infirmière, une place à part entière. J'y ai trouvé vraiment, si tu veux, une reconnaissance de la part des autorités, de la part de la société, une reconnaissance que j'avais pas finalement, que je ne percevais pas en France, un salaire vraiment correct, un respect de mon métier que j'ai beaucoup aimé. Un rôle d'évaluation, d'analyse beaucoup plus profond, en fait, si tu veux, que ce que j'ai pu connaître. Je n'étais plus exécutrice de prescription, j'étais vraiment, voilà, intégrée dans un diagnostic médical, paramédical, et je faisais entièrement partie de cette prise en charge. Enfin, voilà, j'ai vraiment pris confiance dans mon métier et dans ce qu'on pouvait apporter en tant qu'infirmière, comme aux États-Unis, il y a un énorme respect pour les infirmières.
Oui.
Et du coup, j'ai pris confiance finalement dans ma posture professionnelle et dans mes capacités à consulter. Parce que à la base, en France, je me suis dit, bon, je vais développer la consultation infirmière, parce qu'elle existe, mais elle n'est pas remboursée. Mais autant te dire que ça parlait à personne, hein, ce que je voulais faire. Personne m'a dit que moi, t'es folle, tu vas pas faire ça, enfin, personne va te payer. Pourquoi est-ce qu'ils iraient payer une infirmière? T'as qu'à faire du libéral. Enfin, tu vois, je dis, ouais, mais libéral, tu peux pas. Enfin, tu vois, bref, c'était vraiment, on m'a dit, mais t'es malade, c'est n'importe quoi. La consultation infirmière, elle est hors convention, mais qui va payer pour une consultation infirmière? Alors qu'elle existe, hein. Mais elle n'est pas remboursée. Enfin, tu vois, je me suis vraiment fait casser de partout. Les pédiatres, l'ordre des pédiatres trouvait que c'était une très bonne idée de développer la consultation complémentaire à leur pratique, mais ils ne voyaient vraiment pas comment j'allais être payée. Enfin, tu vois, voilà, parce que j'avais porté le projet quand même, mais que des portes sont fermées. On m'a dit, enfin bref. Donc, j'ai dit, OK, c'est pas grave. Ici, consultation infirmière reconnue, pratique privée reconnue, des cliniques, enfin les infirmières comme en Amérique de partout, elles peuvent avoir une clinique d'esthétique, elles peuvent avoir plein de choses. En fait, le métier est très très ouvert et il ouvre plein de portes. Donc j'ai dit, écoute, je vais me lancer, je vais le faire ici. En fait, puis après j'ai dit, mais attends, pourquoi est-ce que je commencerai pas, même si ça marche pas, à le faire en France, parce que je peux le faire à distance. Je suis encore française, puis j'avais rencontré une fiscaliste qui m'avait dit, tu peux en tant que française, et si ton activité est en France, domicilier une entreprise en France.
Oui.
Donc c'est ce que je pouvais faire, et mon statut ici me permettait de le faire aussi, parce que même si j'étais en permis fermé ici, vu que c'était un statut temporaire, je pouvais ouvrir, effectivement, je pouvais avoir une entreprise en France, quoi. Donc c'est le deal que j'ai trouvé. Voilà, ouais. Donc du coup, j'ai fait ça, on a fait un montage fiscal, etc. Enfin, je veux dire, voilà, on a tout bien mis comme directement, ce qui m'a permis d'être en permis de travail fermé ici, mais d'être directrice d'une entreprise en France. Je me suis dit, associé à ça, je vais créer un petit Instagram, et puis j'ai envie de partager ma philosophie de soins, ma façon d'accompagner, etc., etc. Et puis, s'il y a des questions, cette fois-ci, je dirais que, je suis rémunérée pour ça. Alors, au départ, je disais, vous donnez ce que vous voulez, donc j'ai commencé comme ça. Et je vais voir ce que ça donne. Et puis, le temps d'avoir ma résidence d'ici un an ou deux, je continue ici. Sauf que y a deux choses qui ne sont pas passées comme je les avais anticipées. C'est que notre résidence permanente, elle a pris 3 ans au lieu de 1.
Ouais.
Et que c'était pas une ou deux consultations qu'il y avait par semaine, en fait, de demandes de consultations qu'il y avait par semaine. C'était une dizaine, puis une vingtaine, puis une trentaine, tu vois.
C'est un gros... c'est un challenge. Quel problème.
Oui, je veux dire, c'est un gros problème, mais en fait, c'est juste que... moi, je veux dire, j'ai pas fait j'ai pas fait les choses dans les règles de l'art. De toute façon, je crois que si vous écoutez, vous savez que depuis le début, je fais rien dans les choses de règles de l'art. Mais c'était juste pour moi un petit début de me dire, bon, comme ça, ça va m'entraîner un peu, tu vois, je vais faire ce que j'aime, et puis ça me permettra d'affiner, de faire la main, puis savoir un peu comment je veux bosser et tout. Puis je voulais quelque chose à distance, donc ça tombait parfaitement. Et comme je te dis, sauf que c'est allé un peu plus vite que la musique, et que je me suis retrouvée très vite avec une activité. Une grosse activité, donc avec devoir mettre. Trouver des outils pour gagner du temps. Enfin, bref, voilà, toute cette construction, finalement, d'entreprise qui dure depuis 4 ans maintenant. Et donc, voilà. Donc, en fait, le Canada m'a juste donné la confiance nécessaire en mon métier, en ma posture professionnelle, et surtout m'a donné confiance dans les familles. Parce que, effectivement, quand on a un besoin, eh bien, je veux dire, finalement, qu'on aille payer un ostéopathe ou qu'on aille payer une infirmière, on va payer un professionnel de santé.
Oui.
Tu vois, donc quand t'as mal au dos, tu vas avoir quelqu'un qui va régler ce problème. Mais quand c'est dans ta maternité ou quand ça nécessite pas une évaluation physique et qu'on peut t'accompagner à distance et la périnatalité s'y prête, eh bien tu fais appel à une professionnelle spécialisée là-dedans. Donc c'est un peu comme ça, si tu veux, que je voyais les choses. Puis j'étais à l'aise avec ça parce que c'est aussi cette vision qu'on a de l'entrepreneuriat en santé ici.
Et alors, pour les personnes qui maintenant ont des enfants un petit peu plus âgés, comment tu définis ce qu'est la périnatalité ?
Alors, la périnatalité, on est sur tout ce qui concerne du désir de grossesse, de conception, jusqu'au 3, 4, allez, 5, 6 ans de l'enfant, on va dire, tout ce qui est oui. autour de la natalité. Donc voilà, donc c'est vraiment même dès qu'on pense à devenir mère, jusqu'à ce que l'enfant rentre à l'école, quoi.
Ouais, le fun stuff, quoi.
Ouais, voilà.
Et est-ce que tu remarques des divergences, vu que tu travailles quand même à distance, que ce soit entre la France et le Canada ou partout ailleurs, comme je pense aux Émirats arabes, par exemple ?
Écoute, il n'y a aucun pays qui...
qui fait les choses de la même manière.
Ouais. Exactement. Donc, en fait, tu vois, alors, on est entre eux, il y a 4 ans et aujourd'hui, il y a 4 ans, tu vois, j'avais, voilà, 10, 20, comme tu dis, ça a monté, de quelques consultations par semaine. On est aujourd'hui à plus de 200 par mois et on couvre un territoire international. Donc,
c'est
en
génial.
Fait, ouais, c'était mon rêve. Moi qui suis fan de voyage et de... Enfin, je veux dire, c'est pour moi, j'allie vraiment tout ce que j'aime dans la vie, quoi. Donc, oui. j'aime, je veux dire, mon métier, plus les voyages, plus le côté multiculturel, plus ce côté... Enfin, ça réunit, en fait, voilà, tous, je ne sais pas si je pouvais rêver mieux comme entreprise, en fait, si tu veux, sans l'avoir anticipé, hein. Mais voilà, aujourd'hui, je peux travailler autant aux États-Unis, au Canada, en France, en Thaïlande, en Côte d'Ivoire, je suis de partout, on a des patients de partout. Tu vois, la semaine prochaine, j'ai un couple anglophone, enfin, voilà, j'en ai de partout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai toutes les recommandations de tous les pays, en fait. Voilà, je suis sans arrêt en train de me renseigner, de mettre à jour mes connaissances, que je transmets à mes équipes maintenant, sur la diversification en France, c'est comme ça, la diversification au Canada, c'est comme ça, la diversification là-bas, c'est comme ça. Enfin, tu vois, voilà, c'est sans arrêt une remise à jour des questions. Enfin, c'est être connecté de partout, en fait, tout le temps.
Et alors, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide des services ? Parce que moi, j'en ai compté 3, mais je suis sûre qu'il y en a plus. Donc, c'est, tu me dis, il y a avant. Donc, j'imagine que tu accompagnes
dans
toutes les questions de fécondité.
Fécondation, oui, exactement.
Fécondité, je me perds.
Fertilité, on va dire.
Fertilité, pardon.
C'est vrai. Alors, aujourd'hui, j'ai une équipe pluridisciplinaire, donc je mets un point d'honneur à ce que ce soit des professionnels de santé avec une formation initiale en santé sociale, psycho, tout ce qui te donne un diplôme d'État ou en tout cas un certificat, une licence quelque part. Enfin, tu vois, je m'adapte au pays, mais pour moi, c'est important d'avoir fait des études dans le domaine pour vraiment aborder, connaître l'enfant, connaître la femme, connaître l'humain, tout simplement, savoir mener un entretien thérapeutique, savoir développer une relation d'aide, savoir évaluer, savoir analyser. Pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui n'est pas issu de ce domaine qui travaille à mes côtés. Ça, c'est hyper important parce qu'on est vraiment dans une démarche d'évaluation, de prise en charge. Je ne suis pas dans une démarche de... Le soutien fait partie de mon métier. Donc, je ne suis pas, je veux dire, ce volet de côté soutien à la parentalité, ça va de pair, en fait, avec notre travail de professionnel de santé spécialisé dans ce domaine. Et un professionnel, c'est des compétences qu'on va rechercher chez lui. Mais tout le côté évaluation, analyse, tu ne vas pas l'avoir si tu es que dans le soutien à la parentalité. Donc, moi, pour moi, c'est très important. Donc, si tu veux, aujourd'hui, elles sont 12 ou 13.
Ah ouais.
Ouais. 12, 13, puis là, il y en a encore 2 cas. On va dire une équipe de à peu près 14-15 personnes. Donc, on a 2 psychologues qui vont travailler, une essentiellement sur tout ce qui est petite enfance, une autre sur tout ce qui est santé mentale de la femme, dépression postpartum, burn-out, etc. J'ai une naturopathe qui est donc, elle spécialisée pareil, santé féminine, périnatalité, fertilité. Donc, Lauriane, elle travaille beaucoup avec la fertilité en naturopathie. Il y a ensuite une ostéopathe, mais l'ostéopathe, elle consulte à son cabinet. Et puis, sinon, elle est formée à ma méthodologie d'accompagnement, de prise en charge du sommeil de l'enfant. On a 2 auxiliaires puéricultrices, 3 auxiliaires puéricultrices qui sont formées, la plupart soit en allaitement, soit en sommeil, puis tout ce qui va être prise en charge du bébé, de la maman, l'évaluation de postpartum, enfin, tu vois, tout ce qui est finalement avant, après bébé, elles ont cette formation-là, plus... ma méthodologie de, je veux dire mes protocoles et ma méthodologie pareil du sommeil, de l'allaitement, etc. On a une kiné spécialisée en sexo, périnée, abdos, donc ça elle peut beaucoup travailler aussi à distance puis sur place. On a une infirmière précultrice quand même, on a une infirmière spécialisée en psychopérinatalité, une éducatrice spécialisée au Canada. Là, on va avoir une éducatrice de jeunes enfants, une sophrologue. Ouais, voilà, je crois que c'est tout. Et bon, en fait,
c'est un beau livret quand même.
Voilà. Et toutes ont une spécification dans des formations, ont enrichi leur formation de base par une spécialisation en périnatalité, tout ce qui touche en fait à la mère et à l'enfant et à la famille.
Mais donc, c'est super intéressant parce que, tu vois, des sceptiques pourraient se dire, bah, quand même, ce type de suivi, ça ne peut pas être fait à distance. Tu vois ce que je veux dire?
Oui et non, parce que, je veux dire, une psychologue, elle ne t'évalue pas physiquement.
Ah non, ça c'est clair.
Voilà. Quand tu vas, je veux dire, l'allaitement, alors on fait beaucoup, beaucoup aussi de dépistage. On a, en fait, c'est un peu le premier professionnel que tu vois. Des fois, tu ne sais pas qui aller voir, d'accord? Tu as un problème d'allaitement. Ah, déjà, ouais. Il faut te dire, ok, j'ai un problème avec mon allaitement. Je sais que j'ai un problème, mais moi, je n'ai personne autour de moi. Donc, on fait déjà une pré-évaluation. Moi, j'ai donc énormément d'années d'expérience et ce qui fait que je supervise toutes mes équipes. Toutes mes équipes sont supervisées par moi-même. On a des réunions régulières toutes les semaines, etc. Et en fait, moi, j'ai mis en place des protocoles de dépistage, d'évaluation bien précis. Donc, je vais demander certaines photos, certaines vidéos quand je veux évaluer, moi, visuellement quelque chose. Et à ce moment-là, si moi, je dépiste quelque chose à distance, je vais chercher du relais sur place. Là, c'est ce que j'ai fait en France, par exemple, où je suis en train de monter toute une équipe allaitement à domicile. Donc, en fait, chouette. Ce qui fait que, voilà, si nous, en fait, on voit quelque chose, si une de mes professionnelles voit qu'il y a un allaitement qui n'est pas optimal et qui pourrait, voilà, être mieux et qu'il y a peut-être quelque chose à évaluer, bah, dans ces cas-là, on va passer le relais à une de nos filles sur place.
Ok.
C'est quand même un peu le premier contact que tu vas avoir. Et aujourd'hui, je veux dire, en 4 ans, on a monté un réseau énorme de professionnels avec qui on travaille sur place, qu'ils soient ostéopathes, qu'ils soient médecins. J'ai un médecin qui rentre dans l'équipe, j'ai un pédopsychiatre qui rentre dans l'équipe. Donc, tu vois, on a vraiment monté, voilà, un gros relais où on va, à un moment donné, si nous, on est limité à distance, eh bien, on cherche. Puis aujourd'hui, avec la communauté que j'ai sur les réseaux, des fois, j'ai souvent des demandes où, en fait, on va vraiment envoyer, si tu veux, les patients sur place. On est vraiment, voilà, c'est-à-dire de dépistage, d'évaluation. Puis si ça ne suffit pas, on trouvera un relais sur place.
Oui, non, mais j'imagine bien que il y a des choses, si tu n'es pas sur place, bah, pas de bras, pas de chocolat, quoi.
Exactement. Par contre, à la clinique, parce que depuis, j'ai ouvert une deuxième structure qui est la clinique, une clinique périnatale à Sherbrooke, donc au Canada où je vis. Là, on a les suivis de croissance, les suivis de poids, la vaccination, enfin tout ce qui peut être fait physiquement.
Mm-hmm.
Non, plus ça, tout ce qu'on fait.
Ça a son sens. D'accord. Et, mais alors, quelle est ta référence personnelle? Parce que par exemple, je vis aux États-Unis, au sommeil, ici, on fait du sleep training. Donc, dès que l'enfant a 4 mois, voire même avant, parce que regarde, ma fille, aujourd'hui, elle a 3 mois et demi, on me parle déjà de la sleep train, parce qu'elle a suffisamment de poids et nanana. Comment tu allies ton opinion personnelle avec ce qu'on te demande de faire dans le pays dans lequel tu vis, avec aussi ta culture dans le pays dans lequel tu viens, où, par exemple, en France, on parle pas de sleep training. Tu vois, comment tu arrives à allier ces trois choses en même temps?
Bah, pour moi, c'est une question de posture professionnelle. Quelqu'un qui a une expérience multiculturelle, moi j'ai travaillé, je suis partie en Angleterre un moment, puis j'ai fait des missions bénévoles, donc j'ai travaillé auprès des familles là-bas, en France, au Canada, j'ai travaillé au Gabon aussi, le pays de mon mari. Je pense que le background d'expérience professionnelle que tu peux avoir appuie ta posture. Moi, si aujourd'hui je te dis par A plus B que ces méthodes de sleep training ne sont pas gagnantes dans le développement psycho-affectif de ton enfant parce que il y a telle ou telle chose qui peuvent être délétères dans son, se dire, c'est développer son côté émotionnel et affectif. Comme par exemple, tu sais, c'est pas pour rien qu'on appelle, par exemple ici le Terrible Two, parce que finalement, ces tempêtes émotionnelles, moi je n'ai jamais vu autant de tempêtes émotionnelles, de troubles du comportement du petit enfant que depuis que j'ai vécu au Canada. Encore, j'ai quand même, tu sais, des expériences conséquentes un peu partout. Et donc, je veux dire, j'appuie par des faits, tout simplement. Et il y a la science qui me couvre, je suis infirmière quand même, donc la science me couvre, les recherches récentes, la neuroscience me couvre, si tu veux. Voilà, neuroscience, la science tout court, les différentes recherches en psychanalyse, je veux dire, appuient ce que je dis. Et il y a énormément de professionnels qui ont cette volonté, si tu veux, de remise en question de leur pratique, qui je veux dire, s'enlève un petit peu de ces pratiques un peu américaines, parce que beaucoup oublient que tout ça vient de l'Amérique, beaucoup idéalisent colonise, tu sais, notre continent là. Mais
c'est pas tout rose. Voilà. Hein.
Non, à ce niveau-là, c'est pas tout rose. Et souvent, quand tu sais, ça fait très bien quand une coach en sommeil te dit, ah, je suis formée aux États-Unis. Ouais, ben mets-y les pieds, puis tu verras c'est quoi les méthodes. Tu vois. Sauf que quand ça vient de loin, on a l'impression que c'est génial. J'explique moi souvent que sleep training, le sleep science, enfin toutes ces choses-là, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces méthodes ne viennent pas de professionnels de santé.
Mmh. Ben, moi, ce qui me fait toujours rire, voilà. C'est le. Je pense que tu as entendu parler de la Cryolat Method, parce que c'est le docteur Cohen qui a établi ça à New York, qui est un docteur français, qui n'a jamais fait ça sur ses propres enfants, quand même, il faut le rappeler, et qui propose à partir de 6 semaines de vie d'un enfant, ce qui est quand même extrêmement tôt. Avant, il démarrait à, je crois, 6 mois, il est descendu à 4 mois, et moi, quand je suis allée à Tribeca Pediatric, quand j'habitais à New York, ils m'ont proposé de le démarrer sur mon fils à 8 semaines de vie. Donc, ça fait 2 mois.
Oui, tout à fait.
Et en gros, ils proposent de laisser ton enfant, donc tu le poses dans son berceau à 7 heures du soir, tu le récupères le matin à 7 heures et tu le laisses. C'est-à-dire, s'il pleure, good for him. Exactement. Et je me rappelle, avec mon mari, on était quand même extrêmement interloqués à savoir comment on peut faire ça. Apparemment, il y a maintenant aussi des familles qui payent des gens pour venir faire le sleep training de leur enfant parce qu'ils sont incapables de faire la Cryolat Method. Mais tout ça pour dire que nous, ça nous paraissait complètement aberrant.
Mais ça paraît aberrant à tout le monde. Mais quand tu ne connais pas autre chose, bah, tu ne te poses pas de questions sur ce que tu fais. Donc moi, j'amène autre chose. Forcément, ça va questionner les parents. Puis quand tu leur dis, est-ce que tu es à l'aise de faire ça? Est-ce que tu es à l'aise de laisser ton enfant pleurer? Puis quand tu dis, bah ouais, non, c'est vrai, je ne suis pas à l'aise. Non. Bah alors, pourquoi tu le fais? Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu enseignes aux gens que quand... tu as l'impression de faire quelque chose qui va contre, si tu veux, la nature, finalement, bah pourquoi tu le fais, en fait? Et là, ça fait du sens. Là, ça prend du sens.
Mais je crois qu'il y a aussi le syndrome de la blouse blanche où tu pars du principe que parce que c'est ton pédiatre qui te dit de faire ça, il faut que tu le fasses.
Complètement.
Oui, et c'est malheureux. Et je pense que c'est pour ça que ton approche est intéressante, parce que tu peux potentiellement remettre en cause... ce syndrome et te dire, bah attends, ton pédiatre,
mais je le
remets
ça,
mais
en
c'est
cause.
Qui ton pédiatre? Voilà.
Mais je le remets en cause. Et d'ailleurs, quand je donne le masterclass en Europe, je leur explique qu'on n'a pas de blouse blanche ici. C'est-à-dire que déjà, ce syndrome, enfin, c'est-à-dire cette posture hiérarchisée, elle n'est pas là. Ici, on va te croire parce que moi, ici, si tu veux, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens adhèrent à cette approche? C'est qu'en fait, je suis infirmière. Donc, j'ai la connaissance. Mm. Ah, j'ai la blouse. J'ai une connaissance qui est mise à jour, parce que je rappelle quand même que pour avoir ta licence d'infirmière active, tu dois avoir un minimum de je sais plus combien d'heures de formation par an. Donc, si tu veux, il y a un ordre qui est derrière toi, il y a, je veux dire, tout un organisme qui est derrière toi et qui vérifie tes compétences, qui vérifie tes qualifications.
Oui, t'as une légitimité professionnelle quand même.
Complètement, complètement. T'es pas C'est ça. Et quand tu dis à une mère que non, tu n'es pas obligée de faire vivre ça à ton enfant, puis de t'imposer de lui faire vivre ça pour l'accompagner dans un sommeil. Moi, j'explique que le sommeil, alors c'est pas que mon champ de compétences, mais c'est une des spécialités que j'ai choisies. Le sommeil est un besoin fondamental au même titre que l'alimentation, que marcher, que respirer. Et quand il y a une perturbation de la marche, de la respiration, de l'alimentation, ben, on n'accompagne pas ça en forçant les choses. Donc, si tu veux, le sommeil étant au même niveau que ses besoins fondamentaux, il n'y a pas de raison qu'il soit pris en charge d'une façon différente, surtout chez l'enfant qui vit un processus développemental qui ne s'arrête pas avant 4 à 6 ans. Donc, pourquoi est-ce que si un bébé ne mange pas, on ne va pas lui ouvrir le bec et lui mettre la cuillère au fond de la gorge? Ben, pourquoi est-ce qu'on le laisserait pleurer pour dormir?
Oui, mais je crois qu'à partir du moment où tu actes le fait que le sommeil n'est pas acquis chez l'enfant avant 5 ans, je pense que déjà tu t'enlèves une barrière.
En fait, l'acquisition, c'est même pas ça, je te dirais, c'est la maturation, d'accord ? C'est-à-dire qu'au même titre que marcher, je veux dire, on attend d'un enfant qui réussisse à marcher avant 18 mois, c'est à peu près cette période où être assez mature neurologiquement, nerveusement, au niveau psychomotricité, au niveau connexion, neurones, etc. C'est à ce moment-là qu'il va réussir à marcher. Donc, il va être mature. Si tu veux qu'en gros, ça y est, ce côté de son développement, ce côté de ce besoin fondamental, ça y est, il peut répondre tout seul à ce besoin, se déplacer. Parce que se déplacer, se mouvoir, c'est un besoin fondamental auquel l'être humain a besoin de répondre. Jusqu'à ce que l'enfant sache marcher, il n'est pas autonome face à ce besoin. Le sommeil, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un processus de maturation qui, l'enfant sait dormir, parce qu'il sait dormir depuis qu'il est dans le ventre, mais par contre, ce processus va vivre des perturbations, va vivre des évolutions, sa structure va évoluer pour se stabiliser et devenir mature vers 4 à 6 ans. Mais en attendant, si tu veux, il va se passer pas mal de choses. Donc, l'enfant va être capable à certaines périodes de réussir certaines choses, atteindre certaines attentes de la part de son parent de façon non autonome, parce que du coup, ce qu'on veut, c'est l'autonomie. Tout ce que les parents veulent, c'est que l'enfant soit autonome dans la réponse à ce besoin. Sauf que ce que les parents ont du mal à entendre, c'est que l'enfant n'est pas autonome avant bien longtemps, en fait. Et ça, c'est pour ça que j'aborde le sommeil de l'enfant comme n'importe quel autre besoin fondamental d'un être humain.
Non, mais c'est super. Et je trouve que tes vidéos sur ton compte Instagram sont nécessaires. Je me rappelle mon week-end à Sequoia National Park avec mon toddler qui refusait de dormir. Et à ce moment-là, je vois la vidéo « Comment favoriser le sommeil en vacances ». Et je me suis dit « On est bon ». Écoute, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit point truc et astuce de ta part. La première, c'est… quel conseil tu aurais à donner, par exemple, à une maman qui est sur le point d'accoucher ?
De se faire confiance. De se faire confiance de savoir qu'elle est capable de le faire, en fait. Qu'elle est capable de le faire, peu importe ce qu'il va se passer, elle va réussir à mettre au monde son enfant. Je veux que les femmes sachent qu'elles sont capables de donner la vie, qu'elles ont toutes les ressources nécessaires et que si jamais il y a une faille quelque part dans les ressources qu'elles ont ou pas, ou qu'il y a une absence de contrôle sur ce qui peut se passer, l'équipe médicale, il y a une équipe qui sera là derrière vous. Mais je veux vraiment que les femmes se mettent au centre de leur accouchement, au centre de la naissance, mais d'elles-mêmes en fait. Parce que si elles se mettent au centre, c'est-à-dire que si tu es confiante devant ton équipe paramédicale, médicale, périnatale, eux, ils prendront moins de place. Oui. C'est pour ça que vraiment se mettre au centre de la chose. J'ai confiance, je suis capable, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas et je vais le dire. Puis si jamais ça se passe pas comme prévu ou qu'il y a des imprévus, des choses parce qu'on est face à l'humain, on est dans des choses qu'on ne peut pas contrôler, là, j'ai une équipe qui sera là pour faire en sorte que mon bébé puisse être là, en fait. D'accord ? Oui. Mais c'est tout. L'équipe médicale est simplement là pour assurer les arrières de la femme.
Exactement. Oui. Non, c'est important parce que combien de fois tu entends des témoignages où les gens disent « j'ai perdu le contrôle et je n'étais plus acteur ou actrice de cet événement de vie
». Exact.
Et est-ce que tu aurais des conseils à offrir à une maman qui vient tout juste d'accoucher et qui vit son postpartum, par exemple, toute seule à l'autre bout du monde, surtout là, comme on le dit, en période de Covid où tu ne peux recevoir personne, tu es un peu démunie face à ce bébé qui vient d'arriver dans ta vie?
Je dirais la même chose. Je dirais la même chose, c'est qu'elle est capable, qu'elle doit s'autoriser à vivre un bouleversement. Alors, tu sais, j'ai un deuxième livre qui sort au mois de janvier, puis j'ai écrit quelque chose à l'intérieur. C'est un essai, enfin, tu verras, c'est complètement un autre exercice d'écriture. Devenir mère, en fait, c'est un voyage. C'est un voyage qui n'est pas facile. L'atterrissage est très important. C'est-à-dire que si tu t'autorises à atterrir en douceur, déjà tu vas mieux vivre ton voyage. Parce que si tu atterris de manière difficile, d'accord, tu t'atterris un petit peu de cet accouchement d'une façon très difficile, comme quand un avion atterrit très mal, ton voyage débute pas top. D'accord, il débute avec une frayeur, il débute avec un petit peu des choses qui sont difficiles à vivre. Donc s'autoriser vraiment à atterrir en douceur. Et à se mettre dans sa bulle, en fait. S'autoriser vraiment à mettre, comme dans un avion, la musique dans ses oreilles, ne rien calculer et être, voilà, se mettre dans sa bulle et faire ce voyage, en fait, dans sa petite bulle. Les ressources nécessaires, la femme, elle les a, ok ? Elle les a. Elle a besoin, surtout si elle est seule, d'être dans cette bulle et surtout de devenir sa priorité, ok ? Comme... L'image de l'avion, pour moi, représente énormément la maternité. Quand un avion chute, quand un avion s'écrase, le masque, on ne le met pas à son enfant en premier. On le met à soi. Parce que si on met pas son masque, c'est-à-dire qu'on ne sauve pas en premier, on ne sera pas capable de sauver son enfant. Et ben c'est pareil pour la maternité, c'est-à-dire que si la mère ne se met pas en priorité, ne fait pas en sorte d'être bien, de devenir sa priorité, de s'autoriser à reléguer au deuxième, au troisième, au quatrième plan tout ce qui ne concerne pas son bébé ou elle-même,
oui.
Et ben ça va être difficile. Okay, ça va être difficile. Donc, il faut se l'autoriser. C'est un exercice. Il faut s'autoriser à être sa priorité et son bébé. C'est-à-dire que tout ce qui ne nous concerne pas ou ne concerne pas notre bébé n'est pas une priorité.
Oui. Moi, j'aimerais bien rappeler à titre personnel, parce que ça m'est arrivé, je sors de ce voyage. C'est quand même, quand tu es seule avec ton enfant... S'il y a un moment de frustration, c'est OK de poser son bébé dans son lit, de le laisser pleurer 5 minutes le temps que toi, tu ailles pleurer 5 minutes. Je pense que ça, c'est important quand tu vis l'isolation en temps de pandémie. Et c'est pas mal. Il va pas... Parce que je sais qu'il y a cette grosse pression aujourd'hui à dire il ne faut pas laisser un bébé pleurer. Alors ça, je l'ai appris. Oui, voilà, je l'ai appris à mes dépens pour mon premier. Mon premier, c'était il faut pas le laisser pleurer, il faut pas le laisser pleurer. Donc tu te mets cette pression énorme à genre et si t'entends un truc en plus, c'est strident dans ton cerveau. Tu te dis ok, il faut pas qu'il pleure. Là, je me rends compte quand même avec ma deuxième que même si tu es dans la voiture à 5 minutes d'arriver chez toi, il faut arriver à la maison. Je veux dire, elle va pleurer 5 minutes, ça va pas être génial, tu vas culpabiliser, mais c'est important parfois de se laisser un peu de mou.
Exactement. Mais c'est surtout, c'est l'absence, faut bien comprendre quelque chose. Les pleurs de bébé sont une façon de s'exprimer, d'exprimer un besoin, de communiquer. D'accord ? Un bébé va communiquer avec ses pleurs, parce qu'il ne sait pas parler encore. Mmh. Par contre, ne pas apporter de réponse aux pleurs de son enfant, là, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on dit ne pas laisser pleurer, contre les méthodes de laisser pleurer qui consistent à laisser pleurer un enfant pour lui apprendre quelque chose, notamment le sommeil. Oui. Donc, si tu veux, c'est un peu réactionnel à ce genre de méthode que le ne pas laisser pleurer un bébé tout seul ne veut rien dire, d'accord ? C'est on ne laisse pas pleurer un bébé pour lui apprendre quelque chose et on ne laisse pas un bébé qui pleure sans réponse.
Mm.
Voilà, c'est ça. D'accord, c'est le fait de ne pas avoir de réponse à quelque chose qu'on exprime, donc je sais pas un besoin quel qu'il soit, qui va frustrer l'enfant et qui va le faire pleurer de plus en plus et qui va commencer à se dire oh, mais personne répond, je demande quelque chose mais personne ne sait, personne est là, on me laisse tout seul, je suis pas bien, tu vois. Et le fait de ne pas répondre, ben oui, là on va entraîner effectivement un pic de cortisol et tout ce qui va être délétère pour son développement. Mais si on répond à son enfant et que son enfant pleure dans ses bras ou qu'on ne répond pas, qu'on est dans la salle de bain et qu'on dit non attends bébé, je suis en train de prendre ma douche, j'arrive plus tard, on n'est pas dans du laisser pleurer, d'accord ?
Oui. Non, mais je pense que c'est très important à rappeler. Pour moi, c'est un conseil qui a son sens, c'est qu'il y a une différence entre négliger son enfant.
Tout à fait.
Et sortir d'un moment beaucoup trop frustrant où il n'y a pas d'autres bras à laisser et tu es sur le point de pleurer. Enfin, combien de fois ça m'est arrivé, je me dis à un moment donné, il faut.
On mais peut tout plus, à fait. Quoi. C'est exactement ça. Mais comme tu peux dire, voilà, tu peux dire à ton bébé, ok, j'ai entendu, tu pleures, je suis désolée là, je ne suis pas capable d'être là pour toi. Je ne suis pas en train de te laisser pleurer pour que tu dormes, mais c'est juste que là, émotionnellement, c'est compliqué. Et je crois que la chose qu'il faut quand même rappeler et qui est essentielle, c'est que les pleurs excessifs d'un enfant et qui ne s'arrêtent, les pleurs incessants d'un enfant, ne sont pas normaux. Okay ? C'est-à-dire qu'un enfant qui pleure de façon très excessive, il exprime quelque chose de pas OK. Donc, on consulte. On consulte jusqu'à ce qu'on dise « Ok, je comprends, je vais chercher ce qu'il a ton bébé, pourquoi il pleure de cette manière ?» Mais on ne se contente pas de la réponse « C'est normal, c'est un bébé, il pleure. » Non. Si un bébé pleure au point que tu craques et que tu t'en empuises plus, il y a quelque chose.
Et si ton pédiatre te dit « C'est normal qu'il pleure », change de tu pédiatre. Changes.
C'est ça. Tu changes. Tu trouves quelqu'un qui te dit « Non, t'as raison, c'est pas normal, je vais chercher ce qui se passe. » C'est ça la réponse.
Et qui t'écoute aussi. Moi, j'ai remarqué la différence entre mon pédiatre à New York et le pédiatre ici. Ici, elle est très bien, elle focus énormément sur le bébé. Mais je trouvais que mon pédiatre à New York focalisait aussi sur les parents et nous rappelait à chaque rendez-vous qu'on faisait un bon travail.
Ça, c'est très important.
Et ça, ouais, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger le travail qu'il y a derrière des parents à faire en sorte, sans mode d'emploi, que cet enfant survit.
Complètement.
Donc, d'ailleurs, ça me fait une belle transition. Quel conseil tu as pour l'autre parent? Parce qu'on parle beaucoup de la maman, on parle moyennement du papa ou de l'autre partenaire. Voilà, quel conseil tu aurais à offrir pour l'autre parent, surtout si ce dernier n'est pas de la même culture que la maman?
La communication. La communication, la communication, la communication. Peu importe la communication qu'on choisit d'utiliser, le moyen, le canal de communication, que ce soit à l'écrit, par texto, par mail, verbal, lettre, tout ce que vous voulez, exprimez ce que vous ressentez. S'il y a des choses qui vous questionnent dans, voilà, dans le comportement de votre partenaire, de la maman, dites-lui. Communiquer avec cette personne, verbaliser tout ce que vous ressentez, vos émotions. Si vous vous sentez exclu, dites-lui. Si vous vous sentez rejeté, dites-lui. Si vous sentez que vous avez pas de place, vous trouvez pas de place, dites-lui. Oui. C'est vraiment la communication. C'est-à-dire que se mettre l'autre parent, si parce que la mère, elle vit quelque chose d'unique et personne avant qu'elle le vive peut savoir comment elle va le vivre. Donc, si on s'aperçoit que tout allait bien, tout d'un seul coup, je sais pas, moi, on la trouve vraiment bizarre, elle est collée à le bébé tout le temps, elle veut plus, enfin, voilà, on n'existe plus, enfin, peu importe ce qui se passe, en fait, ou le contraire, enfin, peu importe, mais communiquez. Parce que si vous vous mettez dans votre coin et que vous ne dites rien, il y a un fossé qui se creuse et ce sera très difficile de revenir l'un vers l'autre après, mais surtout de retrouver une place. C'est-à-dire que c'est comme si, à un moment de votre vie, en tant que couple, vous n'allez plus parler le même langage. Donc, vous avez encore la même langue, normalement. Donc, essayez d'être le plus honnête possible dans ce que vous ressentez. Si ça vous fait du mal, si ça vous fait quelque chose, ressentir quelque chose de négatif, telle ou telle chose que maman va faire, ou que, voilà, en tout cas, parlez. Vraiment, l'autre parent, c'est parler, prendre des initiatives, c'est-à-dire ne pas attendre que maman demande quelque chose, parce que logiquement, elle va pas le faire, parce qu'il y a une espèce de syndrome de jeune maman qui arrive avec côté je gère. Donc, prenez des initiatives, ok? Et plus vous allez prendre des initiatives, plus la barrière, on va dire, psychique de la mère va tomber et vous allez trouver une place de plus en plus, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de schémas qui peuvent arriver que c'est difficile de donner un conseil vraiment particulier. C'est pour ça que prendre des initiatives et communiquer, c'est vraiment les deux choses à faire quand on arrive, quand un bébé arrive dans la vie de deux personnes.
C'est important parce que je pense qu'on ne se rend pas compte du train qu'on est en train de se prendre en pleine tronche. Vraiment. Exactement. Et on n'a pas le mode d'emploi, c'est ça qui est bien triste. Mais
Tout à fait, mais on est là. Tu vois, il y a des professionnels qui ont décidé d'en faire leur spécialité et qui accompagnent les familles justement dans cette aventure. Et c'est important,
oui.
Surtout quand on est seul.
Non, mais quand on est seul et quand on est loin de ses racines.
Complètement.
Non, en tout cas, je trouve que ton compte, encore une fois, Instagram, aide à déculpabiliser, est une vraie mine d'informations qui est bonne à prendre, au bon moment parfois en plus. Donc, merci beaucoup de ton travail d'élargir ton réseau de professionnels.
Oui, exactement. Pour moi, c'est important vraiment de toujours répondre au plus près des besoins. C'est comme ça que je fonctionne, d'accord ? On me demande souvent, parce que tu sais, on considère, on va dire, comme une chef d'entreprise, moi j'ai du mal, mais bon, sur comment est-ce que je fais. Et en fait, je réponds juste à un besoin. C'est tout ce que je fais.
Besoin est-il, hein ? Mais alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour la suite ?
Écoute, la classique, hein, la santé. qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? On peut me souhaiter de continuer d'ouvrir des cliniques périnatales dans le monde entier et notamment sur le continent africain.
Oui.
Voilà, on peut me souhaiter souvent, ça, on peut me souhaiter que j'y arrive parce que c'est un de mes projets primaires, c'est un de mes projets, un de mes premiers projets professionnels qui est dans ma tête depuis 2012, depuis que j'ai travaillé au Gabon et avec cette envie vraiment d'un retour aux sources finalement, de racines qui sont mes racines mais que je ne connais pas vraiment, si tu veux, que je connais en pointillé. Donc j'ai ce besoin de retour aux sources, j'ai ce besoin de continuer à comprendre mon histoire en retournant sur mon continent d'origine que je connais pas assez à mon goût mais dans lequel je me sens extrêmement bien et en même temps dans lequel j'ai envie d'apporter quelque chose. Je me dis ma famille, en tout cas l'histoire de ma famille, c'est un déracinement, c'est une expatriation, c'est une immigration et ils l'ont fait pour quelque chose, pour espérer peut-être du mieux pour leurs propres enfants, puis indirectement ben, nous. Et je me dis, j'ai envie de rendre hommage à cette histoire-là en entreprenant sur ce continent et en développant la santé sur ce continent. J'ai vraiment ouais. cette volonté profonde. Mes deux grands-mères n'étant plus là, voilà, qu'elles puissent me voir de là-haut et me dire, regarde, on est parti, mais on aura permis ça.
Oui, c'est un beau retour de voilà. transmission.
C'est ça. Donc, c'est ce qu'on pourrait me souhaiter parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai, pour le coup, je ne considère pas que j'ai réussi encore dans ma vie aujourd'hui, mais si j'arrive à faire ça, peut-être que je reconsidérerai cette réussite.
Bah attends, t'es vachement jeune, t'as encore largement le temps. Hein.
Exactement. C'est pour ça qu'on me dit, ouais, t'as réussi. Non, pour moi, j'ai pas réussi parce que je suis encore très loin de ce que je veux faire. Et voilà, on peut me souhaiter d'y arriver, on peut me souhaiter de, voilà, d'aller développer la santé périnatale sur le continent africain, voilà, qui est celui, le mien, celui de mon mari, et donc du coup celui de mes enfants.
Oui, et qui est malheureusement souvent délesté et laissé pour compte, ce qui est vraiment dommage.
Exactement. Puis je pense que pour moi, en tout cas, j'ai envie d'être, voilà, de faire partie des ambassadeurs de ce beau continent qui regorge de beaucoup de pays avec beaucoup de richesses humaines. Et voilà. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça, c'est que je développe cette périnatalité là-bas.
Non, bah, ça me paraît un très, très beau projet. Moi, en tout cas, à titre personnel, je te remercie énormément d'avoir pris un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. J'aimerais bien que tu nous fasses un rappel pour savoir comment on peut prendre rendez-vous avec toi ou avec un membre de ton équipe.
Directement sur le site internet centreperinatalhmb.com. De là, vous choisissez le pays dans lequel vous vivez. Et puis, du coup, vous avez accès à tous les services. On est hyper accessible aussi sur les réseaux sociaux, donc on peut nous écrire. Moi, j'ai Camille, du coup, mon assistante personnelle qui répond à tout le monde. Voilà. Et puis, dès que c'est des gens qui sont, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, elle me le dit, en fait, et on passe par la clinique. Voilà. Mais c'est depuis le centre, centreperinatalhmb.com. Et vous, voilà, il vous amène sur le site du pays dans lequel vous vivez. Donc voilà, par là, par les réseaux sociaux, par voilà.
Un caméléon de la communication.
Exactement, c'est ça.
Non, bah écoute, vraiment, merci beaucoup Audrey.
Merci à toi.
Et puis bah, je te souhaite une très bonne fin de journée.
Et bah merci, à toi aussi, à bientôt.
Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao !